Bienvenue à la French Connection, épisode 134, deuxième de 2020. Je suis avec Damien.
Salut tout le monde!
Vincent.
Salut tout le monde!
Et Patrick.
Salut!
Commençons par les Shameless Plugs le 23 janvier. J'espère diffuser l'épisode avant. Ce 23 janvier, il y aura le cocktail d'après les fêtes de Québec Sec. Le 28, 29, 30 janvier, FIC à Lille, qui est un événement très intéressant d'ailleurs, très, très grand. Le 7 février, journée de cybersécurité organisée par le Shawisec à Shawinigan, dans laquelle c'est une demi-journée de conférences, une demi-journée de CTF. Ils ont commencé à diffuser les conférences qu'elle a présentées, puis ça a l'air de super intéressant. Le 10 mars, sécurité d'information organisée par les affaires. Le 11-12 mars, le Cloud in Cyber Security Expo à Londres. Le 26 mars, colloque cybersécurité de données à Lévis. Je crois que Patrick va être présent. C'est vrai?
Yep. Hackfest est présent et je donne une petite conférence.
Et la même journée, le soir même, on fait un enregistrement live du podcast à Québec Sec. Donc, ça va faire comme à l'épisode 100, avoir beaucoup de plaisir à discuter. Puis cette fois-ci, on reste tout relativement sur place et non avec Damien à l'autre bout du monde. Fait que ça va changer un peu la forme, ça va être très intéressant.
Yes. Et j'aurais pas perdu surtout, eh bien, mon petit papier. Donc, du coup, je serais beaucoup plus drôle.
Ah, ouais, si on compare au Hackfest, effectivement, ça va être un peu plus détendu. 10 avril, le Global Hackness organise la 4e édition de l'événement orienté cybersécurité à Bordeaux. Ensuite, 16 au 26 avril, la semaine numérique dans laquelle il y a le Sécur le 20 avril, dans lequel on revient, dont Damien va présenter. Patrick va présenter normalement, hein, si je peux avoir ces infos.
Ça arrive.
D'accord. Commençons avec les nouvelles. Uh-huh. Et la première qui est quand même assez importante, qui touche les entreprises, puis dans le contexte actuel, l'Iran. S'attaque à des entreprises PME, PMI françaises, canadiennes, un peu partout pour faire du chantage.
Ouais, c'est complètement fou. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines de l'agressivité de l'Iran, mais aussi de beaucoup d'autres pays, hein, et surtout de leurs pirates informatiques. Et on sait ce qui se passe avec les États-Unis, etc., etc. Et ce qui est très étonnant, c'est que depuis 3-4 mois, un groupe de pirates informatiques qui est très connu. Alors, très connu pourquoi ? Parce que ils sont, par exemple, entre autres, les auteurs du logiciel Avige. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cet outil. C'est un outil qui permet de faire quoi ? Eh bien, tout simplement, de faire de l'injection SQL. Eh bien, je clique et ça fonctionne. Donc, ce groupe, on le connaissait, il diffusait de temps en temps des exploits à droite à gauche. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'ils ont à première vue une succursale qui est clairement de rançonnage. Hein, ils vont donc infiltrer des serveurs, des ordinateurs, ils volent les données et après ils téléphonent, ils envoient des mails, ils font du WhatsApp, ils font du Twitter pour contacter d'abord toute la direction. Ben oui, ils ont les informations vu qu'ils ont volé les bases de données. Et ils écrivent aux directeurs, ils écrivent aux directions donc des entreprises qu'ils infiltrent. Et là, ils leur disent, c'est simple, bonjour, on a tout volé, contactez-nous. Et puis, si jamais vous ne les contactez pas dans l'heure, ils écrivent à tous vos employés, tous vos salariés, en tout cas tous les mails qu'ils ont pu trouver internes. Et si vous ne répondez pas, ils ouvrent un Twitter. Et là, ils vous disent, hey, vous ne nous avez toujours pas répondu, si vous ne répondez pas, eh bien, nous commençons à diffuser vos informations. Et les gars, ils donnent un numéro de téléphone. Et donc là, vous avez une conversation en anglais, mais aussi en français, mais aussi en espagnol, de gens qui vous expliquent eh bien, qu'ils ont toutes vos données et qu'il va falloir payer maintenant. Et dans la conversation, ils vous expliquent que, ah oui, vous avez par exemple peut-être un site qui s'appelle damien.ca, damien.fr, eh bien ils ont ouvert un site qui s'appelle Damien avec un S, Damien avec un 1 à la place du I. Bref, ils font du typo squatting et ils vous disent, si vous ne payez pas, eh bien on mettra toutes vos informations qu'on vous a volées sur les noms de domaine qu'on vient de créer. Donc voilà cette nouvelle découverte pour vous expliquer que il existe effectivement plein d'autres pirates qui font du rançonnage. Hein. On a le groupe Maze, on a eu Rex Mundi, etc., etc. Mais vraiment, ce chantage 2.0 est en train de prendre une ampleur qu'on n'imaginait pas. Avant, ça existait. On en avait déjà parlé entre nous. Mais là, maintenant, les gars ne se cachent même plus parce qu'ils le rendent public. C'est devenu la publicité publique en disant on vous a infiltré, on vous a tout volé, payez, sinon tout le monde va le savoir.
Ça fait peur à tout le monde, j'ai l'impression que personne n'a réagi.
L'idée, c'est pas de faire peur, mais c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, cette cybercriminalité a vraiment pris, on va dire, une dimension supérieure. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que je connais des jeunes pirates, 15, 16, 17 ans, qui font exactement la même chose. Sauf que quand en face, on a des groupes beaucoup plus organisés, soyons très clairs, hein, clairement des groupes mafieux, voire moi, c'est le terme que j'ai utilisé pour le groupe Maze, terroriste, parce que quand vous avez quand même les gars, on en avait parlé d'ailleurs dans l'un des podcasts ensemble, quand vous avez quand même les gars qui ont volé toutes les informations de l'entreprise, dans lequel il y a tous les documents sociaux hein, des employés, et quand vous êtes un immigré et que vous devez fournir, par exemple, les informations sur votre femme, vos enfants, et que ces malveillants diffusent tout, parce que l'entreprise n'a pas payé, mais surtout elle n'a pas protégé, mais surtout qu'elle diffuse tout, que dedans vous tombez donc sur les photos des enfants, de l'épouse ou de l'époux, pardon, ça c'est du terrorisme, clairement.
Ouais, puis le problème avec ça, c'est que depuis des mois, voire plus qu'un an, on parle des ransomware comme quoi, que hey, mettez vos backups en place, puis vous allez couper l'herbe sur le pied des attaquants, mais là, ça marche plus. T'as bien beau avoir un backup, mais eux autres aussi, ils mettent le backup online. Fait que
c'est... Et surtout que maintenant,
on retombe au concept de sécuriser nos choses.
Surtout que, on l'a toujours dit, ça fait 3 ans que le podcast existe, j'ai retrouvé l'un des tout premiers où on expliquait clairement que si le pirate est chez vous, qu'il a fait du rançonnage, c'est qu'il s'est peut-être invité à visiter tout ce que vous aviez. À l'époque, des gens disaient « oui, non, ils automatisent ». Ouais, c'est fou furieux, c'est que depuis 7-8 mois, on se rend compte que les gars, avant de lancer leur ransomware, ils ont tout vidé, et le rançonnage, en plus, ils vont le lancer 3-4 semaines, voire 3-4 mois plus tard, parce qu'ils se sont dit « tiens, on va rentabiliser ». Pensez à Rihanna, vous savez, quand elle chante et elle danse et elle prend ses petites mains et puis elle fait « dommage, vous n'avez pas la caméra, mais j'étais en train de me frotter les mains et je faisais cracher les dollars ».
Ah oui. Puis il y en a de l'argent à faire là-dessus.
Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, c'est rendu un business comme les autres, mais malheureusement, sur le dos des entreprises qui ont peu ou pas d'argent, parce qu'on parle des PME, PMI, généralement, on n'a pas suffisamment les moyens ou ils ne prennent pas les moyens nécessaires pour y arriver aussi. Fait que c'est un peu c'est triste. Sauf qu'en même temps, rendu en 2020, si on n'a pas fait notre hygiène numérique,
C'est dur pour les PME, c'est surtout ça l'affaire. Puis je pense que Damien, il fait ça.
C'est dur pour les PME, mais des grands groupes comme Maze ont quand même bullshité des informations de grands, grands groupes. Alors, je ne vais pas les citer là parce que c'est parce qu'on n'a pas peur, mais c'est parce que j'ai surtout oublié de tous vouloir les citer. Mais rien que le groupe Maze, quand on voit les sociétés qu'ils ont diffusées, juste pour rappel, c'est une bière, une grande marque de bière belge, une grande marque alimentaire italienne. On a aussi une grande société chinoise qui fait dans l'imagerie médicale. On est quand même des gens qui brassent pas des milliers de dollars, pas des millions d'euros. Certains brassent des milliards.
Mais la grosseur de l'entreprise n'a pas de lien avec la sécurité, malheureusement. Le seul lien qu'il y a, c'est quand c'est une PME, généralement, ils n'ont pas l'argent pour. Puis, je veux dire, sont en plus en format souvent start-up ou pas start-up, mais pas beaucoup de ressources ou d'argent pour payer en sécurité. Mais quand on parle de grandes entreprises, tu dis le mot médical. En médical, ils font de l'argent, oui, mais en termes de compréhension de l'informatique puis de la sécurité, on est proche du zéro. C'est pas leur priorité, loin de là.
Puis, écoutez, je veux pas donner des trucs aux terroristes, mais la prochaine étape, ça va être justement de se faire embaucher dans ces boîtes-là où ça va être beaucoup plus facile de passer sous le radar, de récupérer l'information. Puis, donc, la surveillance à l'interne devient extrêmement importante. Dans le dernier mandat...
Mais c'est déjà le cas, par exemple, Vincent. Tu donnes cet exemple-là, tu as raison, mais ça se fait depuis des années, puis on le sait pas, en fait. Tu sais, les moteurs crime organisé, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est avec des personnes à l'interne, ils payent des stagiaires, ils payent une secrétaire, whatever. Tu sais, les fausses identités au Québec, ils ont fait des raids de police, les SWAT, etc. Ils ont toujours trouvé que pour avoir les fausses identités, c'était la SAAC, généralement, qui était le point faible. Puis ils se sont rendus compte qu'ils payaient du monde 50 000 pour avoir des petits permis de conduire valides.
Ah, écoute, ce genre de je suis d'accord avec toi, Patrick. J'ai perdu mon idée. J'en reviens plus tard.
Mais
Bah, juste pour dire que si je suis maintenant au Québec, par pitié, je ne suis pas un espion de la Nord-Corée, hein, je vous préviens tout de suite.
Mon idée m'est
revenue.
Tu as tout à fait raison, Patrick. C'est un modus operandi qui existe. Présentement, ce qu'on entend pas, ce qui est sorti dans les nouvelles, c'était outre le grand hexagone vert l'autre bord du pont à Lévis, les autres modèles, c'était un petit peu plus à petite échelle. Mais là, à cette heure, avec les outils, les compagnies qui mettent pas la sécurité, mettent de la sécurité sur le périmètre externe à mort, mais à l'interne, plus ou moins. Puis la possibilité maintenant de pomper l'information sous le radar, une quantité énorme, puis de l'exfiltrer d'une façon facile. Tu sais, je pense que je pense qu'on est rendu là, là. Autrement dit.
Oui, tout à fait. Puis un des problèmes de ça, c'est que, on l'a dit des centaines de fois là, avec le cas de la banque, mais c'est que c'est extrêmement compliqué à détecter à l'interne, que ce soit malicieux ou par erreur. Tu sais, même le ministère de la Santé, ils ont des alertes pour voir que les personnes connues, qu'il n'y ait pas personne qui ait joué dans leur compte pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Tu sais. Ça, ils le détectent. Mais monsieur, madame, tout le monde qui va jouer dans leur compte, il n'y aura pas d'alerte. Puis si c'est des documents confidentiels de sécurité ou autre, que tu t'en vas copier un drive au complet, c'est simple là, comme détection, celle-là, mais j'ai jamais vu une compagnie qui l'a faite comme faut.
Hey, les gars, un petit peu de nostalgie. C'est-tu moi qui observe que plus ça va, il y a un relâchement du côté de la sécurité interne. Souvenez-vous du central dans les années 60-70. C'était blindé. On pouvait pratiquement rien faire. C'était tough d'exfiltrer de l'information. Puis il y avait des logs extrêmement verbeux qui étaient fabuleux pour justement faire de la prévention. Puis il y avait un resserrement vraiment solide. En fait, une préoccupation peut-être malsaine du côté des dirigeants parce qu'ils étaient très restrictifs. Mais ça permettait justement de protéger les données en tout cas, c'était des très bonnes pratiques à l'époque. Ça, c'est mon avis, là.
Mm-hmm. Mais tu sais, qu'est-ce qui provoque ça un peu? C'est le switch vers le cloud. Fait que là, on investit beaucoup dans le cloud. Fait que l'interne, qui sont généralement en mode hybride, ils ont de l'interne on-premise puis ils ont le cloud. Les efforts sont mis sur le cloud. À l'interne, la solution ne suit pas ou la nouvelle solution ne supporte pas l'ancienne. En tout cas, c'est pas facile à gérer un merge on-site puis cloud.
Puis il n'y a pas juste ça. Les solutions infonuagiques, les podcasts que je suis avec vous autres depuis 2 ans à peu près, il y a 3, 4, 5 nouvelles où, malheureusement, la responsabilité de la sécurité du contenu, pas du contenant, mais du contenu, c'est souvent du côté du client et non du fournisseur. Puis ce qu'on voit, c'est vraiment c'est slappé là comme mesure là, justement par puis les gens, les compagnies qui font affaire avec ces fournisseurs là, ils mettent des gens en charge de la sécurité qui manquent de compétences. Il y a vraiment un manque de compétences puis une urgence de s'en aller vers ces solutions là avant de faire les choses comme du monde puis de se faire un planning puis d'être réellement prêt là pour bien appliquer ça.
Je pense que tu dis le problème à tous les trucs de sécurité en général, mais ouais.
Ouais, bien au-delà de ça, c'est sûr que c'est plus l'informatique départementale, puis l'info nuagique ne fait qu'accélérer l'informatique départementale que où tu as un paquet de gens avec peu de connaissances qui sont capables de monter des systèmes, puis dans le fond, on met des armes très puissantes dans les mains de gens qui n'ont aucune maîtrise de ce qu'ils ont, fait qu'on vient avec ce problème-là. Puis il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de gouvernance, on oublie, puis ça ne fait qu'aggraver avec le temps. Passons à la nouvelle suivante, que tant qu'à parler de fuite, CamGirl a connu une fuite quand même assez importante de données confidentielles.
Oui, un autre site, elle est un peu similaire à Ashley Madison, mais au lieu d'être les clients, c'est les femmes qui étaient sur les webcams, dans le fond. Eux, quand ils s'inscrivent à cette plateforme-là, ils ont comme un formulaire à remplir pour donner de l'information, dans le fond, sur un peu comme leur biographie de tout ce qui est relié au sexe. Mais ça inclut beaucoup d'informations confidentielles et privées. Donc, ils se ramassent avec leur nom, l'âge, leur grandeur, où c'est qu'ils sont nés, leur endroit favori, leur hobby et tout ce qui est évidemment relié au sexe. Mais ça met ces personnes-là dans une position terrible parce que tu as leur nom, leur âge, où ce qu'ils sont nés, puis leur endroit préféré. Généralement, leur endroit préféré, c'est où ce qu'ils vont être physiquement plusieurs fois par année. J'imagine pas les cas de stalking qui vont apparaître sur ces choses-là, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes dérangées sur cette planète. Donc, c'est un cas qui peut avoir des impacts très...
Personne dérangée, j'ai un nom.
Physique, si on peut dire. Oui, vas-y.
Non, je vais pas donner son nom.
Ah, OK. On en a une bonne liste. Mais non, c'est ça, c'est assez terrible. Puis, en tout cas, c'est dommage que quelque chose d'aussi intense comme type d'information, encore une fois, se ramasse sur les internets publiquement.
Tout ça est fort malheureux, mais tant qu'à faire un peu de pouce là-dessus, Damien fait référence que le consulat français a eu fait, dans ce cas-ci, une erreur de manipulation qui a des conséquences de fuite d'informations malheureuses, pas graves, mais malheureuses.
C'est ça qui est intéressant, là, nos trois infos qu'on vient d'avoir là, c'est trois formes de fuite de données, et l'une des plus classiques, et qui ne l'a jamais eu dans sa boîte aux lettres au moins une fois par semaine, eh bien c'est simple, hein, le consulat écrit à un certain nombre de Français, plus de 600 Français, pour leur dire, ben voilà, on propose un rendez-vous pour faire vos papiers. L'idée est géniale, hein, au contraire, c'est faire venir le service public auprès de gens qui ne peuvent pas se déplacer, sauf que dans le courriel, ils ont juste laissé en accessibilité toutes les adresses mail des Français contactés. Donc c'est plutôt gênant parce que ça reste une fuite de données, qu'on le veuille ou non, parce que certaines personnes, il y a leur nom, leur prénom, et donc du coup, comme ils utilisent le mail de l'entreprise qui les emploie, eh bien du coup, on a un OSINT, hein, on a déjà une information sur où il est, la région, pour qui il travaille et son identité. Et je vous parle même pas après de toutes les potentialités de malveillance, phishing, maintenant se faire passer pour l'ambassade, etc., etc. Donc, ils ont été très, très, très réactifs. Hein. C'est des erreurs qui arrivent, soyons très clairs. À ce niveau-là, moi, ça me perturbe quand même. Mais bon, ils ont été très réactifs. Ils n'ont pas le choix. Hein. Le RGPD, vous souvenez, le Règlement Général des Données Personnelles Européen, eh bien là, ils sont en plein dedans. Fuite de données d'Européens, donc de Français, sur les terres québécoises, eh bien, il faut alerter tout le monde. Donc, ils se sont excusés. Ils ont promis, main sur le cœur, que ça ne se referait pas. Jusqu'à la prochaine fois pour une autre entreprise, une autre personne.
Effectivement, on a tous été victimes de gens mal, qui ne savent pas comment manipuler la technologie correctement. Puis on revient toujours au fait que les gens ne savent pas comment manipuler et ne comprennent pas la portée des gestes qu'ils posent. Donc, oui, j'ai mon courriel qui malheureusement se retrouvé dans des listes et des choses comme ça où moi, j'utilise jamais mon courriel corporatif, ce qui fait que sur ce genre de liste-là, ce qui m'évite toute cette OSINT-là supplémentaire. Quoique c'est pas très difficile de faire du OSINT sur moi, là, ultimement, puisque mon nom a cette particularité d'être assez unique. Passons à une autre nouvelle, puis celle-là, je la trouve très intéressante parce que moi, ça m'inquiète énormément. C'est comme quoi les applications sur nos téléphones intelligents sont hors de contrôle sur la consommation et la récupération d'informations personnelles sur toutes nos habitudes et tout ce qu'on fait avec ces dites applications-là, dont les jeux gratuits.
Ouais, clairement, c'est une information qui vient de Norvège. Donc, c'est le nord de l'Europe, pour ceux qui n'ont pas encore la géographie dans la tête. C'est l'autorité de la concurrence du pays. Alors, ça s'appelle exactement le Conseil norvégien du consommateur. Et ils ont sorti là, le 15 janvier, 186 pages d'un document qui s'appelle « Out of control ». Alors, c'est quoi l'idée ? Eh bien, ils ont analysé des applications de nos téléphones portables, de nos smartphones, de nos ordiphones. Autant dire, quand on a un téléphone portable aujourd'hui, quand on voit le nombre d'applications qu'on peut posséder si on ne fait pas attention, c'est fou. Et eux, dans leur étude, alors ils ne parlent pas de Huawei avec de potentialités fuites de logiciels. Hein. Ils ne parlent pas, non. Là, on est clairement avec un document qui dit, eh bien, on a Tinder, par exemple, ou AdPen, ou MyDays, eh bien, ils ont la diffusion à 135 autres entreprises tierces, les informations des applications. C'est fou. Ça veut dire que moi, l'application que j'utilise, elle prend mon nom, mon prénom, tout ce que je consomme, etc. Et après, c'est diffusé sur, à d'autres partenaires, à d'autres marketeurs. Donc, ça veut dire que toutes ces informations-là, je ne les maîtrise pas, je ne les contrôle pas. Lisez-la, cette étude. Elle est affligeante. Et c'est d'autant plus inquiétant, c'est que prenons nos adolescents, prenons nos enfants qui ont peut-être un smartphone dans lequel ils téléchargent toutes les applications à la mode. Ah là, je parle pas de TikTok, hein. Je parle d'applications, par exemple, pour les dames qui veulent suivre leur santé. Voilà, c'est fou furieux.
Effectivement, pour avoir minimalement suivi ces communications au réseau qui sort de ces téléphones-là, c'est une panoplie de films de marketing qui sont en arrière de films de publicité. Et tant qu'à parler de publicité, un des problèmes qui est à la source de la fuite chez Desjardins, c'est la trop grande accessibilité des informations sensibles à des personnes en marketing qui, pour le bien fondé, vont les utiliser. Et eux ont aucun scrupule sur l'usage de l'information. 0-0 aux autres, c'est pour augmenter les revenus de l'entreprise ou faire de l'argent. Donc, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent. C'est très, très épeurant de voir nos enfants, en plus, toutes ces applications gratuites. C'est ça le problème des applications gratuites. La quantité d'informations qui pompent sur nous, c'est phénoménal. Ils sont capables généralement de savoir où on est localisé, juste par l'adresse IP sortante, par exemple. Ils sont capables de savoir nos habitudes. Il y en a même qui ont caché des choses qui espionnent ce que les gens font sur leur téléphone. C'est juste fou. Fait que ça serait bien que cette façon-là change. On aille vers.
Qu'est-ce que disait tout à l'heure Patrick, hein? Et quand Patrick nous parlait de CamGirl qui s'est fait cette fuite de données, qu'on voit toutes les informations que peuvent accaparer les sites internet pour du marketing, pour soi-disant faire de belles cartes de visite, aujourd'hui on ne peut plus avoir confiance, c'est plus possible. Ou alors se créer plusieurs identités, mais là ça veut dire qu'on va devenir tous des schizophrènes de 2.0, c'est plutôt inquiétant.
Ah, vous parlez de marketing, vous parlez de fuite de données, etc. Un petit élément sur lequel je suis tombé, je dirais, là, plus d'une dizaine d'années, quand mon ex-copine est tombée enceinte, on s'est mis à recevoir justement toutes sortes d'informations, hein, Nestlé avec un petit sac, puis des produits, puis etc., etc. Pour me rendre compte que, en discutant justement avec mon ex-copine, pourquoi qu'on commençait à recevoir toutes sortes de communications, des appels téléphoniques, du courriel, du courrier. Elle m'a expliqué qu'elle est allée au salon des nouvelles mamans à Montréal et que chaque kiosque où elle arrêtait a donné un petit bout d'information, incluant l'adresse courriel, pour se rendre compte que la firme de communication qui est derrière ces concours-là, c'est la même firme qui était capable de, voilà, merci du signe, avec une seule donnée récupérée de façon identique, il montait le profil des éventuelles mamans, des éventuels papas. Et puis, si vous voulez mon avis, hey, ça se fait encore, ça. Et, allez.
Ah non, mais ça, c'est terrible. Là. C'est du marketing qui est invasif sur la vie privée. Puis ça, c'est le même concept que l'épisode qu'on avait fait là, sur les centres d'achat qui font de la reconnaissance faciale opt-in sans possibilité, excuse, de faire du opt-out, vraiment, sauf si tu ne veux pas t'habiller dans ta vie. Là. Ben, je veux dire, tu pourrais acheter tout sur Amazon, mais c'est pas mieux. Puis on n'a jamais eu de suivi hein, là-dessus. By the way, Nick, on a fait beaucoup de pubs, ça a été intense sur LinkedIn, sur Twitter et tout ça. Puis il y a une personne, je pense, que de la compagnie qui avait répondu sur Twitter disant que oh, tout est beau, tout est gentil, puis ça a fini là. Mais je veux dire, cet exemple des magasins-là, la vie privée comme ça, les applications, c'est le modèle qui est partout. Puis, ça s'annonce pas bien, comme tu dis, Nick, pour les enfants futurs.
Ça, on met dans les mains de gens en marketing des décisions importantes sur la vie privée des gens. Et c'est généralement pas les meilleures personnes pour prendre des décisions éclairées à ce sujet-là parce que leur motivation et leur incitatif n'est pas favorable à la protection de la vie privée. C'est justement le contraire. Ils sont défavorables à la protection de la vie privée parce qu'ils font tous leur business le contraire.
Mais il n'y a rien qui les oblige à agir différemment. C'est surtout ça aussi le problème. Là. Même, je veux dire, s'il y a des règles de vie privée et autres, tant qu'il n'y aura pas d'action contre ces entreprises-là, il ne se passera rien. Puis, il n'y a personne qui en parle. Tu sais, je veux dire, dans les cégeps, universités et autres, il y a des cours sur comment faire ces choses-là.
Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. L'offre de service d'un département marketing, c'est justement de colliger des données, pas nécessairement d'avoir des données complètement en clair, dont l'objectif est justement de modeler un modèle de communication pour accroître la clientèle, pas pour parler à du monde. On veut parler à un ensemble de personnes.
Ben, c'est le concept de Target. Si on revient à Target, la manière que le magasin fonctionne, ça avait sorti des nouvelles, je pense, il y a 4-5 ans, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient concernées puis qui trouvaient ça un peu bizarre parce qu'ils recevaient des pamphlets, des nouvelles, etc., sur leur courriel ou même physiquement chez eux, du magasin, lui disant, ben va acheter des couches. Mais ils n'ont pas encore l'enfant. La fille est juste enceinte, mettons, de 6 mois. Mais parce que son profil, les achats, que tous ses achats sont reliés à un certain profil au magasin avec son courriel ou une carte, évidemment, là, de membre, ben il voit que la tendance de qu'est-ce qu'il achète dans les derniers mois, ben, ils savent qu'il y a un enfant qui arrive. Ça, c'est un des exemples. Mais on peut aller tellement plus loin, justement, avec les Google de ce monde. C'est assez terrible. Mais
avec la nouvelle loi, là, justement, sur les communications, avec le consentement tacite, le consentement, etc., dans ma tête à moi, c'est sûr que je vois pas juste des licornes, mais dans le modèle ici, ça devrait être un incitatif qui devrait garder ces gens-là en alerte pour dire faites attention à ce que vous faites avec les données. Parce qu'un jour, il va y avoir une poursuite, une vraie, puis on va passer dans le journal.
Ben, c'est comme la sécurité, tant qu'il n'y aura pas de poursuite ou un bâton d'en face, il n'y a personne qui va agir.
C'est bien dit.
C'est malheureux, ce genre de constat-là, mais il va falloir que les législateurs se réveillent et agissent pour protéger les citoyens contre ce genre de manœuvre-là, mais je ne sens pas cette volonté-là. Même avec le RGPD, on n'y voit pas clairement dans ce genre d'éléments-là. Fait que généralement, c'est des compagnies qui sont dans des zones législatives dans lesquelles sont en dehors de ce contrôle de ces lois-là en plus. Fait qu'on est un peu foutu pour ce genre de choses-là. Passons à la nouvelle suivante qui est... Oui, Damien?
Non, je me permettais. Ce qui est très important aussi, du coup, on voit que le législateur rame. On voit que les entreprises trouveront toujours une petite piste supplémentaire pour continuer à collecter de la donnée. Regardez Google qui annonce que prochainement, les cookies ne seront plus utiles. Non, je pense que la priorité des priorités est clairement d'éduquer nos enfants, nos familles, nos amis, nos proches, qu'ils apprennent à ce qu'est une véritable hygiène numérique.
Effectivement. Passons à la nouvelle suivante qui est une vulnérabilité dans les modems permet une capacité modem câble qui permet essentiellement de manipuler l'information qui circule, puis c'est quand même assez vulnérable, puis semblerait que Vidéotron était également affecté par ce problème-là.
Oui, exact. On se retrouve avec une vulnérabilité qui est rendue publique, puis c'est un peu là l'enjeu, qui affecte des millions et des millions de modems. Pas juste au Québec, là, c'est Canada, États-Unis, Europe, partout. Je pense qu'il disait juste en Europe, c'était plus que 200 millions de modems qui étaient considérés vulnérables à cette attaque-là. Le problème qu'on rencontre, c'est que la vulnérabilité dans le modem, quand elle est exploitée, puis l'attaque est quand même intéressante, là, si vous voulez lire le côté plus technique, ça attaque le spectrum de l'analyse des données à l'intérieur du modem. Ils vont faire un genre d'overflow à ce niveau-là pour ensuite faire un rup chain pour réutiliser finalement des fonctions internes. Et la preuve de concept qui est sortie est que le modem va se connecter automatiquement là, vers un site externe comme ça. Ça aurait l'air, puis là, ben, j'ai checké le code, mais évidemment, le code... en assembleur, c'est pas mon champ de domaine d'expertise, donc j'ai pas tout compris. Mais il y en a qui disent que l'exploit doit se faire à l'intérieur du réseau, d'autres que c'est via l'extérieur, parce que dans la preuve de concept, tu as une commande remote. Mais ça reste que ce soit trigger à l'interne ou à l'externe, tant qu'à moi, c'est un détail, parce que du mass phishing, surtout des millions de personnes au Québec sur Vidéotron, c'est un détail que 1% clique sur ce lien-là qui exploite la vulnérabilité. Dans le fond, c'est simplement de visiter un site web. Ça fait que des centaines de milliers de personnes pourraient être affectées s'il y a une campagne de ce genre-là qui arrive. Puis ce qui est dommage, c'est que... c'est Vincent qui a posté ça. Ben, pas Vincent sur notre podcast, Vincent du Hackfest, qui a posté ça sur Twitter. Vidéotron a répondu comme quoi, « Ah, c'est pas grave, anyway, la vulnérabilité ne peut pas être vraiment attaquer plusieurs personnes à la fois, ce qui est faux là, avec l'exemple que je viens de donner. » Puis qui ont dit qu'ils travaillaient là-dessus puis que l'update allait être diffusé de manière transparente éventuellement. On a répondu à ça, évidemment, là, en disant que l'exploit était disponible, blablabla. Pas de suivi. On a fait un post Facebook, pas de suivi. Donc, si la tendance se maintient, ben on n'aura pas de suivi.
By the way, je l'ai eu, la fameuse mise à jour, parce que je suis avec Vidéotron. Toutefois, j'ai eu aucune notification que sur mon modem, j'avais eu la mise à jour. Je vous explique. Mon modem, je l'utilise pas en mode modem, je l'utilise en mode routeur, parce que lui, il front, puis derrière, j'ai mis mon firewall, j'ai mis mes ports de suivi, bon, etc. Fait qu'il n'y a pas de communication vers l'interne. Les communications sortent, puis c'est lui qui fait les requêtes. Toutefois, une journée où je faisais du télétravail, je trouvais donc l'Internet était là. Je m'en vais faire un reset de ces appareils. J'ai plus d'Internet. J'ai plus rien. Quand je me suis rechargé sur le modem, j'avais le beau message à l'écran sur l'adresse IP du modem. Bonjour, cher client. Bla, 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 bla. Mise à jour. Nous espérons que bla, 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 bla. Moi, je me disais, le modem n'a pas rebooté. Le modem n'a pas rebooté.
Oh boy.
Le modem, tant que je ne flushais pas mon DNS, il restait connecté. Hey, ça a été un nausée. Je pense que ça m'a pris une heure. Ben, on se pense intelligent, rendu à notre âge. Hein. La dernière place que j'ai checkée, c'était dans sa page web de config de mon modèle, bien entendu. Puis là, quand j'ai vu le message, j'ai donc trouvé le modèle de communication Vidéotron tellement poche. J'étais allé voir sur des posts, des blogs, sur le site de Vidéotron, tout était up, le statut était up, il n'y a pas de panne, il n'y a rien.
Ah, mais ils ne diront pas, puis même le post, ça fit avec ton histoire, c'est qu'ils l'ont dit qu'ils allaient pousser ça de manière transparente, puis ils n'en feront pas de communication. C'est-tu mauvais, ça, d'abord? Fait qu'on n'a même pas de statistiques pour savoir si on réussit à pousser les patchs sur 20, 30, 100% des clients. Là. On ne le sait pas. Puis si leur patch est, mettons, mauvaise, comme tu le décris, qu'il faut qu'il y ait un reset, ben, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va l'avoir tant qu'il n'y aura pas de reset. Je ne dis pas que c'est le cas, là, mais...
En pensant,
c'est pas le top,
si hein. On a des représentants de Vidéotron qui écoutent le podcast, c'est pas une opinion négative. Vous avez fait votre travail, c'est bien. On n'a rien contre vous, puis je changerai pas de fournisseur. On vous aime bien.
C'est bien de préciser.
Mais si jamais vous pouvez lui envoyer 50% de réduction, n'hésitez pas.
Mm-hmm. Ouais, vous faites, you know. Par exemple, du podcast.
Mais en même temps, ça ne nous lie pas les mains sur ce qu'on dit. Cela étant, la nouvelle suivante, Trump voit des Chinois partout, un certain état de paranoïa au niveau américain sur un certain nombre de choses, dont les drones qui sont fabriqués en Chine. Ont été bannis de certains usages aux États-Unis.
Ouais, c'est l'autorité chargée de la protection des terres fédérales qui vient d'annoncer qu'ils allaient interdire l'utilisation des 1000 drones civils de la marque JI. Vous savez, JI, DJI, est une société très connue pour ses drones, aussi pour ses caméras. Petit moment de publicité qui nous rapporte strictement rien. J'en ai, moi, des caméras JI, qui sont super efficaces. Ils ont même une caméra Steadicam, vous savez, ces caméras qui bougent avec vous, etc. Donc, c'est du très bon matériel. Mais effectivement, on pourrait s'inquiéter. On pourrait s'inquiéter pourquoi ? Parce que, par exemple, quand j'utilise ce genre de petite caméra, on nous oblige à nous inscrire sur le site Internet, de valider certains détails, certaines informations comme la géolocalisation, etc. Et donc, du coup, eh bien là, le département d'intérieur américain a décidé qu'il fallait bloquer ces 1000 drones civils utilisés de la marque JI. Donc, du coup, ils ont peur que toutes les images filmées par l'autorité chargée de la protection des terres fédérales, eh bien, envoient ces informations en Chine et que donc, du coup, Pékin et la Grande Muraille récupèrent des informations, des petits détails. Autant dire que les satellites, c'est pas fait pour les chiens, les gars, que c'est encore une fois une guerre économique, que je pense qu'il est encore plus efficace que d'envoyer des gens directement sur le terrain pour prendre des petits détails, des informations. Bref, cette paranoïa, qui est aussi et surtout une guerre économique, montre que, eh bien, la guerre, en tout cas, celle, l'art de la guerre, hein, vous savez, celle qui est de combattre sans combattre, n'est pas terminée entre les Américains, les Chinois et le reste du monde.
En passant, une petite précision ici. Depuis le DEF CON 2015 avec mon grand body Nicolas, j'appelle plus ça un drone. C'est un serveur FTP volant en passant.
Yes. Ouais, oui, il y avait un modèle explicite que tu étais capable. Tu avais un point d'accès sans fil sur lequel tu te branchais avec un FTP sans authentification. C'était quand même magique comme solution. Je sais plus, ça doit plus être exact de nos jours, mais encore, c'est très...
La présentation est excellente, avec son titre aussi, hein? This little bastard of a neighbor.
Oui. Ouais. Ah, fait que, passons à la nouvelle suivante. 2020 ou juste 20, c'est peut-être une bonne idée de mettre l'année au complet, la signature des papiers. Puisque, étonnamment, ça peut dire deux années différentes.
Ouais, c'est un cas spécial, en fait. C'est rare qu'on parle de ça, puis c'est pas vraiment notre spécialité de parler de trucs légaux, mais je pense que celle-là est utile pour tout le monde avec un quick win. Si tu signes un contrat quelconque avec la date, au lieu de mettre l'année comme étant 20, comme on fait, mettons, 19, 18, 20. Ben, si tu mets 20, c'est que c'est possible de mettre 20 puis de rajouter par après un autre chiffre qui est soit 20, 21, 20, 18. Fait que tu peux post-dater le contrat dans le futur ou l'antédater dans le passé. Donc, ça pourrait éventuellement là, causer des problèmes légaux, des whatever, attaques en justice pour des trucs qui ne sont pas réels. C'est ça. Faites attention. Utilisez le 20-20 pour cette année. Yes.
Contrat, pas légal. Oh, j'ai des gouttes sur mon front, là.
c'est
ouais,
pas facile.
De toute façon, moi, j'ai pris l'habitude d'écrire mes dates en format ISO, c'est-à-dire année, mois, jour, sur le format long. Donc, et justement, comme l'année est au début, elle ne peut pas faire l'objet de ce que tu mentionnes. À moi de mettre mes dates.
Ouais, on peut rajouter quelque chose.
Mon contrat était signé en 1920, mais au-delà de ça... C'est question d'habitude, comme j'écris mes heures en format militaire aussi, fait que ça m'évite toute confusion et toute manipulation par quiconque. Mais c'est un rappel intéressant pour tout le monde, justement, de faire attention à ça, parce que à la quantité d'escrocs qui existent, malheureusement, tout le monde cherche le petit moyen pour profiter de son voisin. C'est un peu triste comme constat de...
Escrocs? J'ai des gouttes sur mon front, là!
Non, on n'essaie pas de profiter de toi, Damien. ne t'inquiète pas. Mais on est dans un univers de cette nature-là, donc on est en train d'industrialiser le fait de vouloir voiler son prochain. Donc, toute mesure est bonne à diffuser.
Mm-hmm. Surtout pour quelque chose d'aussi simple que ça. Là. Rajoutez deux chiffres pour vous sauver la main sur plusieurs signatures
ouais,
cette année.
Je pense que au Canada ou au Québec, et où au Québec ont fait la promotion sur Facebook de ces éléments-là. Donc, toutes les mm-hmm, représentants légaux diffusent ce message-là justement de façon grand public pour éviter des problèmes aux gens. Nouvelle suivante et la dernière. Entreprise de l'Est de la province a été victime d'une attaque.
Ouais, puis là, on rejoint un peu le sujet qu'on parlait au début avec Damien sur les entreprises et l'Iran là, qui se font faire des demandes de rançon. Là, c'est un cas standard, mais c'est simplement pour montrer que ça arrive encore une fois et toujours. Puis on voit dans cet exemple-là, c'est des entreprises de la région là, de Rivière-du-Loup, un peu à l'est de Québec, qui ont reçu du phishing simplement. Et à partir du phishing, évidemment, l'entreprise, ben pas l'entreprise, j'appelle ça l'entreprise, à ce temps, le groupe criminel a volé toutes les informations et évidemment, on fait une rançon à cette entreprise-là, qui est une entreprise zéro, c'est zéro informatique. Là. Fait que c'est ceux qui travaillent dans du bois et des plus formats PME et très industriels. Donc, on peut comprendre que le concept de sécurité informatique est loin d'être prioritaire à cet endroit-là. Ça n'est une parmi les entreprises, mais il y en a eu plusieurs de cette région-là qui se sont fait faire le coup. Donc, encore une fois, je veux dire, même résultat. Il va falloir faire quelque chose pour nos PME. Il va falloir que quelqu'un développe des belles solutions et ou logiciels là, pour aider à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas laisser des entreprises de petite envergure ou dans des entreprises aucunement dans le domaine se faire avoir comme ça aussi facilement.
Écoute, c'est intéressant ce que tu dis là, Pat. J'ai un de mes grands amis d'enfance que j'ai vu dernièrement dans le temps des fêtes. Travaille à Thetford. C'est un spécialiste, justement, en programmation des automates pour les coupes de bois. Là, on parle pas des automates avec des petites scies, là. On parle vraiment d'une machine à rouleau qui envoie des bios d'une tonne, deux tonnes, trois tonnes avec les différentes coupes, etc. Tout ça est relié, hein. Écoute, tu peux faire du dommage avec dans ces compagnies-là, en scrapant justement le nivelage par laser, en scrapant les coupes. Écoute, c'est épouvantable.
Puis ça, juste mettre l'ordinateur down, je veux dire, l'entreprise n'est même plus capable de faire de la coupe. Ça, c'est aussi niaiseux que ça.
Produit. C'est ça, tu livres plus. Tu livres plus, tu as des retards, tu as des pénalités, puis tu meurs.
Oui, exact. Puis. Ce qui est surprenant, en fait, dans ce genre d'entreprise-là, puis peut-être que ça arrive, puis on n'est pas au courant, mais c'est le peu d'entreprises qui perdent tout et qui vont en faillite. Je sais qu'il y a eu des cas réels, mais il y a tellement d'attaques que ça me surprend que ça n'ait pas des impacts majeurs de ce point-là encore.
Oui, mais l'objectif des criminels n'est pas de briser une compagnie. L'objectif des criminels, c'est de faire de l'argent. Et quand tu fais de l'argent, tu ne jettes pas une fois l'entreprise à terre parce que si tu la jettes à terre, tu n'es plus capable de payer d'argent. Fait que tu faut qu'il y ait toujours dans un modèle où on ils veulent juste saigner assez la personne, l'entreprise, ouais. Pour qu'elle soit encore en vie pour continuer à la saigner plus tard. Parce que tu sais, une entreprise qui s'est faite prendre une fois, probablement dans 3 ans, ils vont se refaire prendre une deuxième fois parce que généralement, ils prennent jamais leur leçon comme il faut. Puis on l'a vu à quelques reprises que c'est un cycle. Il y a comme le message ne se rend pas. Que les outils informatiques sont très pratiques, sauvent beaucoup d'argent, augmentent la productivité, mais il ne faut pas escamoter la protection de ces équipements-là parce qu'ils vivent comme dans un monde de licorne où ils pensent qu'on peut installer ça, mais sans rien d'autre, en escamotant les choses, en escamotant le restant. Fait que, je trouve ça malheureux et je trouve ça triste pour ces entreprises-là, mais en même temps, rendu en 2020, ceux qui ne sont plus au courant des fuites, ceux qui ne sont pas au courant des fuites de données, les problèmes informatiques et tous les risques qu'on associe, ils vivent en dessous d'une roche. Puis au Québec, on a eu le 20 juin 2019, ouais. Le jour zéro. Maintenant, c'est avant Desjardins et après Desjardins. Tu peux plus. La quantité d'informations que Desjardins a diffusées publiquement, juste sur tout le problème, ont minimalement éveillé probablement les 8 millions de Québécois qui. Fait que tu peux plus, là. Tu peux plus plaider l'ignorance. C'est juste impossible. Fait que maintenant, prenez responsabilité puis faites les vraies choses qui s'imposent. Ça vous prend des gens en TI pour gérer vos équipements. Ça prend des gens en sécurité pour protéger vos informations. C'est pas des compétences qui sont nécessairement dans la même personne. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Et plutôt rarement à l'heure actuelle. Genre, on espère un jour ça va, la bascule va se faire. Mais c'est pas dans les mêmes profils, c'est important. Puis c'est pas une fois de temps en temps, faut faire un petit ménage. C'est comme tout, là. C'est pas peut plus.
Non, exact. Les rôles qui se disent sysadmin, sécurité, généralement la partie sécurité est très, très, très petite. Là. Ça couvre pas la sécurité de l'entreprise au complet, malheureusement. Mais ces entreprises-là pensent que ça couvre tout. Puis c'est un peu là qu'on se tire dans le pied. Là.
Oui, aussi. Puis il y a peut-être un peu de responsabilité des gens en TI en infosec de bien propager le message, mais cela étant, il devrait y avoir un certain niveau de responsabilité des gens en TI qui ont. Ça a été beaucoup discuté à un ordre professionnel, là, comme les ingénieurs. Mais maintenant, il va falloir que ces gens-là soient responsables des actes qu'ils posent, puis qu'on arrête de se fier aveuglément à ces gens-là parce que. Toute notre économie numérique est basée là-dessus. C'est comme de dire que tous nos ponts sont construits par des gens qui ont décidé de dessiner un pont dans leur sol puis qui commencent à construire des ponts. On ne peut pas faire ça, là. On n'est plus là.
On est dans les années 1800 des ponts là, en termes de sécurité informatique. C'est ça l'affaire. Les ponts tombaient un sur deux dans ce temps-là. Hein.
Ouais, ben, c'est. J'aurais eu un petit espoir que l'humain.
Oui, on est optimiste.
Mais on n'est pas en tout. quelle tristesse. Bon, terminons sur ça. C'est en tout cas un début 2020 qui est assez rock'n'roll avec l'Iran qui s'en prend avec une montée de la pression dans les cyberattaques et ainsi de suite. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ça part en trombe. On a aussi au Québec le gouvernement qui a des initiatives très intéressantes pour hausser le niveau au minima au gouvernement, mais j'espère que cet effort-là va avoir un impact public aussi, qui vont transmettre ce goût de
sécurité. J'ai hâte de pouvoir en parler publiquement pour qu'on fasse un épisode dédié à ça, justement. Là.
C'est une très bonne idée, oui, effectivement.
Yes.
Fait que messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.
Ciao.
Tourlou. Tourlou.